t'appelle un pharaon. Si tu es toujours pécheur, la porte sera fermée et tu réaliseras qu'il est trop tard.
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons l'occasion et l'opportunité ce jour, à travers l'Épître aux Romains, à son chapitre 14, du 7e au 12e verset, de méditer quelques instants sur notre vie spirituelle dans notre Sainte Église, et aussi de la disparition de notre cher Père, qui a tant fait pour nous et qui aujourd'hui n'est plus au milieu de nous. Le texte de ce jour, je vais essayer de ne pas rester dans le sens littéral qu'on nous a donné pour la composition de ce verset, mais de le prendre plutôt dans le contexte historique dans lequel l'apôtre Paul était arrivé à écrire ce passage. Il s'agissait surtout de la mission que Jésus-Christ a confiée aux apôtres, Matthieu, en son chapitre 10, le 7e verset, lorsqu'il leur demandait d'aller et de prêcher et de dire partout que le royaume des cieux est proche. Pour ceux qui étaient du temps en ce moment-là, et à qui Dieu a confié cette mission particulière de parler au peuple et de sauver ceux qui sont dans les ténèbres, particulièrement l'évangéliste Jean-Baptiste, qui disait à ceux qui sont dans les ténèbres de venir à la sanctification, au baptême, afin de sauver leurs âmes et leur esprit. L'apôtre Paul, qui fut l'un de ceux qui sont les derniers à être sauvés, à être appelés par Christ et à rentrer dans le mouvement des apôtres, a compris une seule chose, qu'il n'a qu'une seule mission à accomplir, sauver le maximum de personnes. Et je le rappelle encore, c'est dans l'esprit que la fin du monde est proche. On ne sait pas si c'est dans 5 ans, on ne savait pas si c'est dans 10 ans, on ne savait pas si c'est dans 3 mois. Mais Christ a dit une seule chose, nous le rappelons, ce fameux verset que nous aimons autant bien citer en descendant beaucoup plus dans Matthieu 28, 19 à 20, qui nous dit quelque chose de très important. Quelqu'un peut nous le lire si c'est possible, pour rentrer dans le vif du sujet. Si vous avez des Bibles, bien sûr. Matthieu, en son chapitre 28, le 19e et le 20e verset. C'était pratiquement le même verset que j'ai lu tout à l'heure, les mêmes paroles comme tout à l'heure, sauf que c'est beaucoup plus précis.
Allez,
faites de toutes les nations mes disciples. Mais oui, oui. Merci, on s'arrêtera qu'au premier, au 19e. Tout à l'heure, le septième verset du chapitre 10 ne précisait pas les nations. C'est-à-dire, désormais, Christ, en parlant d'abord à ceux qui sont près de lui et de la ville dans laquelle, le pays dans lequel il était, vient de s'adresser aux mêmes apôtres en leur disant d'aller plus loin que cela, c'est-à-dire la grâce qui nous a atteint, nous aussi, aujourd'hui, nation lointaine de la terre d'Israël, mais qui aujourd'hui participent comme peuple de la gloire de Dieu. Et c'est dans cet esprit-là que l'apôtre Paul avait pour mission de tout faire pour que toute âme soit sauvée. Et il n'y a point question à ce temps-là des détails. Si on doit manger de la viande de porc, si on doit prier 7 heures par jour, non, il suffisait de croire. Et par tous les moyens, il s'est battu afin que les cadres, je dirais les gros taux de Jérusalem, ne puissent pas, par leurs lois, ne puissent pas, par leurs interdits, empêcher ceux qui n'étaient pas juifs d'origine, mais qui ont quand même cru et qui voulaient continuer à avoir des pratiques qui ne convenaient pas du tout à ce que la loi, en ce temps-là, avait dicté. Selon la loi de Moïse. Et pour cela, il a fallu qu'il se batte. Il a fallu qu'il lutte. Il a fallu qu'il s'oppose à l'autorité depuis Jérusalem. Bien sûr, dans le temps, cela avait beaucoup de sens. Et aujourd'hui, avec beaucoup de distance, nous avons compris que lorsque l'on est près de la mort, lorsqu'on sent la mort venir, le comportement, l'action, la réaction et la réactivité intellectuelle même de l'homme est différente lorsque l'on sait qu'il y a la mort. Elle est loin de nous, elle est très loin de nous. Ainsi donc, le serviteur de Dieu pour qui nous sommes ici aujourd'hui, pour ceux qui ont la chance et la grâce d'être proches de lui les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours, devait comprendre quelque chose de très important, devait lire en lui, psaume 131, le premier et le deuxième verset. On devait lire en cet homme qui, dans sa maladie, qui dans son cheminement, savait que ses jours sont proches. Mais hélas, lorsque l'on était en face de lui, il dégageait encore quelque chose. Psaume 131, le premier et le deuxième verset.
Éternel.
Il n'avait ni un cœur qui s'enflait.
Ni des regards
hautains. Oui.
Je ne m'occupe pas de choses trop grandes.
Oui.
Pour te lever pour moi.
Oui.
Loin de là.
Oui.
J'ai l'âme calme et tranquille.
Oui.
Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël.
Merci. Le deuxième, premier, deuxième seulement. Merci. C'est dire que c'était un homme qui dégageait une paix. On ne lisait guère en lui la panique. On ne lisait guère en lui la précipitation ni la crainte. Mais une sérénité, une force, une capacité, une énergie, une vitalité. Loin de la crainte et de la précipitation de l'apôtre qui nous a présenté ce texte aujourd'hui. Il était convaincu et le savait qu'il laissait tout un peuple, qu'il abandonnait une église, qu'il abandonnait une famille, des gens qui lui étaient chers, des hommes et des femmes qui ont travaillé auprès de lui. Mais en lui, il y avait toujours cette sérénité. Pour ceux qui ont eu cette opportunité, cette chance, cette grâce d'être auprès de lui en ces derniers instants. Parce que il a compris une seule chose. Et c'est ce que le texte d'aujourd'hui nous dit. Le septième. À savoir que nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car il disait que si nous vivions pour Christ. Et si nous mourions, il en est de même que nous mourions pour Jésus-Christ. C'est dire que pour vous et pour moi aujourd'hui, qui avons la chance d'avoir encore des années de vie devant nous, puisque l'espérance de vie même nous permet d'espérer, on n'est pas dans cette incertitude, dans cette ignorance de cette parole puissante que Jésus-Christ avait dite en ce temps-là, lorsque l'on se posait la question si Pierre devait mourir avant que Jésus ne revienne. Vous imaginez que l'on disait que Pierre n'allait pas mourir avant que Jésus ne revienne. C'est-à-dire que le temps est tellement court que le monde, la fin du monde vient bientôt. Et c'était la panique. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, en lisant ces textes, et nous permettons parfois de faire des commentaires que nous ne pouvons même pas faire si nous étions en ce temps-là. Parce que le recul nous a permis d'apprendre quelque chose de très important et surtout d'avoir la certitude par rapport à l'avancée technologique et scientifique que La probabilité pour un homme de vivre dans ce monde est assez éloignée. Et l'idée même de la fin du monde qui était prêchée par Jean-Baptiste et par tous ses successeurs est une idée qui était plutôt pour une fin du monde spirituel, beaucoup plus que la fin du monde imminente. Et même s'il en était ainsi, il est important aujourd'hui, à travers les paroles que l'apôtre nous présente, de distinguer ces deux parties, à savoir la fin de la vie d'un homme sur terre et donc et la fin du monde qui vient, qui sont deux choses différentes. Et c'est en cela que je me permettrai de faire une transition rapide pour dire que notre papa nous a quittés. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette sérénité? Qu'est-ce qui lui a donné cette force, cette paix intérieure qui a pu l'accompagner jusqu'aux derniers instants? Parce qu'il a une certitude que lui, dans sa mission, dans son travail, dans la succession qu'il a pu assurer du pasteur prophète fondateur Oshofar, que ce n'est qu'une transition, le fait de quitter ce monde. Car tout ne finit pas lorsque la chair disparaît. Mais au contraire, nous devons dire pour un serviteur, un grand serviteur comme lui, que la mort aujourd'hui doit être à nos yeux, à vos yeux, à mes yeux, et aux yeux de ceux qui lui sont chers, comme un gain. Un gain qui lui permet enfin de se passer des souffrances, des peines de ce monde. Telle doit être notre vision, que notre parcours, notre démarche, notre œuvre, notre sacerdoce doit nous permettre d'avoir part à ce gain-là. Et à partir de cet instant que nous avons la certitude et la foi ferme que ce gain doit être nôtre et que nous l'avons eu dans nos mains, alors la mort ne doit pas être une crainte pour nous, mais plutôt une assurance que nous rencontrerons le Sauveur. Nous rentrerons dans sa gloire lorsque ce moment-là viendra, c'est-à-dire lorsque la fin du monde, qui est beaucoup plus loin, peut-être pour certains, qui est donc pour certains, que cette fin du monde doit être un moment de réjouissance. Nous rappellerons, si quelqu'un le veut bien, pour me lire le livre d'Apocalypse, en son chapitre 14, le 13e verset, qui nous rappelle que pour tous ceux qui ont œuvré et qui ont quitté ce monde, le temps est encore devant eux de rentrer dans la gloire de Dieu. Apocalypse 14, le 13e verset. Le 13e, s'il vous plaît. Il entendit une voix venant du ciel.
Une voix qui disait.
Oui.
Écrit. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur.
Heureux donc ceux qui sont morts dans le Seigneur.
Dès à présent.
Oui.
Oui, dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de
leurs travaux. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Les prières, les cérémonies, les combats, les prédications, les courses, les visites, les maladies, tout ce que vous avez fait, couru dans ce monde, etc. Aujourd'hui, nous sommes heureux que notre papa, enfin, il se repose. Merci, car leurs œuvres les suivent. Les plus petits bobos, quand vous montez là-bas à Porte Nouveau, en haut là-bas, oh, tout le monde veut que ce soit lui qui traite son problème. Quand on va voir son assistant, il traite le problème, ils ne sont pas satisfaits. Il faut que ce soit lui qui dise le dernier mot. Il en a fait. Et il ne repoussait personne. Il s'est donné, matin, midi, soir. Lors d'une matinée de discussion, je me rappelle encore, c'est lors de son dernier voyage vers le Bénin, de Paris au Bénin, que nous parlions encore avec... C'était à l'aéroport plutôt. Lorsque, avec beaucoup de peine, Madame Adjovi Mathurin disait qu'il n'a pas profité de son papa. Et elle se collait. Elle n'a pas eu le temps de profiter. Parce que la mission qui lui était confiée était immense qu'il n'a pas le temps de s'occuper vraiment de ses propres enfants. C'est vous dire le poids du travail qu'il avait apporté. Mais aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, la mort lui est un gain. Et d'ailleurs, en lisant bien le psaume 90, nous avons compris qu'il était dans le tempo de la prédication de Dieu, de l'âge qu'il a atteint avant de pouvoir quitter ce monde. Ni trop de souffrance dans la chair ni dans la peau, mais il était dans le tempo. La paix de Dieu ne peut être qu'avec lui. L'apôtre Paul continuait un peu plus loin plus tard. Il disait quelque chose d'important. C'est que tout genou fléchira devant Dieu et toute langue donnera gloire à Dieu et que chacun rendra compte de sa mission et de son œuvre. C'est là le point le plus important de ce soir. Est-ce que là où il est, Papa Oshofar, dans sa mission, continue-t-il à penser à vous et à moi, à ceux qu'il a abandonnés? Papa Bossi, là où il est, continue-t-il à penser à nous dans la mission qu'il a abandonnée, qu'il a terminée, excusez-moi les termes, qu'il a achevée selon la volonté de Dieu, puisque nous disons qu'il est dans le bon tempo du Seigneur. Maintenant, il appartient à chacun de nous de faire le point de tout ce qu'il a appris de lui, de ce qu'il a reçu de lui, pour se dire, pour se poser la question, ou s'interroger si nous avons l'assurance que nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir le voir demain. Parce que la certitude est pour chacun de nous, quand on entend les prières que chaque personne fait, quand on entend les paroles de chacun de nous, nous avons l'assurance de ça, nous avons vu de nos yeux, nous avons entendu de nos oreilles. Nous devons dire de nos bouches aujourd'hui que l'assurance est qu'il est auprès de Papa Oshofar, qu'il est auprès du Christ. Mais vous et moi pouvons le voir demain, puisqu'on parle de la fin de tous, de la fin de nous. L'assurance est là, puisque nous avons la ferme certitude que l'appel qui nous a été fait aujourd'hui est un appel de conscience, de mobilisation. Pour ceux qui ne sont pas à 100% dans la foi et dans l'engagement de l'être, puisque c'est une méditation profonde, une introspection de chacun, pour que dans la vision que nous avons aujourd'hui de ce que c'est que la mort, qui n'est point le fruit du péché, mais plutôt un gain des œuvres accomplies en Jésus-Christ, que chacun de nous fasse l'effort de faire ce pas supplémentaire qui nous permette d'être dans la bonne voie, dans la bonne lumière, dans le bon chemin. Nous penserons une dernière fois à notre papa par rapport à ses paroles qui ont toujours été dites, à savoir, s'il craignait la mort, s'il avait peur de la mort, il ne sortirait même pas de Porto-Novo pour venir en France, pour aller en Martinique, pour aller en Guyane, pour aller partout. Mais il a une conviction que les œuvres accomplies en notre Seigneur Jésus-Christ vont lui permettre de donner une force, une impulsion à l'œuvre et à son Église qu'il a laissée aujourd'hui. Nous espérons et nous prions pour cela dans de bonnes mains, pour la continuité comme Oshofar le lui avait laissé. Que la paix et la grâce de Dieu le Père Tout-Puissant soient et demeurent avec chacun de nous. Que de cette méditation, de cette pensée, que vous et moi, nous avons encore le temps au devant de nous. Que s'il y a encore des zones d'ombre dans notre vie, dans notre existence, dans notre cheminement, de tout faire pour l'effacer, d'invoquer Christ et de lui demander de nous éclairer de sa sainte douce lumière, pour que nous aussi, demain, nous ressemblions encore au cheminement et à la voie. Nous prenions la même voie, le même cheminement qui ressemble à celui que Papa Agbaossi a pris. Que la paix et la grâce soient pour son âme. Je vous remercie pour cette écoute. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen.